affaires aux impayés bancaires, des affaires et des verres qui se mélangent, qui dérangent. Mais la passion est là, les verres frais en jouer, acheter c'est peser, emballer, livrer. Aux portes de Paris, les clés d'un paradis. C'est ma vie, dans les halles, un théâtre, un vrai bal de marchandises. Calibré, contrôlé, à volonté, sûr de lui. Investi, producteur, c'est son ami. C'est ma vie, dans les halles, un théâtre, un vrai bal de marchandises. Calibré, contrôlé, à volonté, sûr de lui. Investi, producteur, c'est son ami.
Et bonjour à tous, il est 11h et vous écoutez Radio Resto et de suite les infos avec Adrien Marie. Adrien, bonjour.
Bonjour Marie-Alexia, bonjour à tous.
48 heures pour écouter, 48 heures pour agir. Relevons le défi.
Relevons le défi.
Radio Resto saison 3 a commencé ce vendredi à 20h, 48 heures de mobilisation au profit des Restos du Cœur avec les plus grandes personnalités de la radio. L'objectif de ce week-end est de récolter un maximum de dons pour financer des camions frigorifiques pour les Restos du Cœur. Ces camions sont essentiels pour transporter des aliments périssables en toute sécurité. Toute l'année, les Restos du Cœur s'activent pour proposer un accompagnement aux personnes privées de logement. Accueil de jour, camions, bus, points chauds, mais aussi des maraudes. Une trentaine d'équipes mobiles sillonnent les rues à pied ou en voiture dans toute la France. Leur mission, aller à la rencontre de ceux qui n'ont plus la force ou l'envie de venir chercher de l'aide. Reportage au cœur de cette action essentielle avec Léo Mazet.
2,1 millions, c'est le nombre de contacts des Restos du Cœur auprès des gens de la rue dans toute la France. Lors de la dernière campagne hivernale, pour leur venir en aide, des maraudes sont organisées chaque soir. Au total, 30 dans 18 associations départementales. Nous avons rencontré Samira, accompagnée de Kamel et Julien. Ils nous emmènent avec eux en immersion toute une soirée, à commencer par la préparation dans le 18e arrondissement de Paris.
Alors je regarde quels sont les arrondissements qui ont été faits. On va faire le nord de Paris. Alors regarde, 9e n'a pas été fait depuis 14 jours. Alors avant de commencer, pareil, j'appelle le SSP, c'est le SAMU social de Paris, pour leur dire qu'on part en maraude dans le 9e arrondissement. Comme ça, si eux, ils ont des signalements, ils m'appellent et on va vers les personnes. Donc là, je vais les appeler. Oui, bonsoir, c'est la maraude des Restos du Cœur.
La maraude, un travail d'équipe, une mobilisation générale. Riverains, pompiers, tous se serrent les coudes et signalent de potentielles personnes en difficulté présentes aux abords des trottoirs parisiens. Les soupes sont chaudes, les duvets sont chargés dans la camionnette. Il est 18h30 et la maraude des Restos du Cœur peut enfin démarrer pour près de 6 heures de recherche.
On reste toujours en double fil où on s'arrête à hauteur de la personne, du bénéficiaire ou de la bénéficiaire. Et puis ensuite, on va la saluer, demander comment ça va. Et puis après, ben, s'ils ont besoin de rien, on discute un peu avec eux. Et puis s'ils ont besoin de manger, boire, de se réchauffer, quand on a des vêtements, de leur donner des vêtements, ben, on leur donne. Mais on laisse le véhicule à proximité, en fait.
On va vraiment vers les personnes les plus précaires. Ceux qui ne veulent ou peuvent pas aller dans les distributions camions. Et puis bon, c'est des gens qui ne veulent pas aussi être avec d'autres personnes.
Et puis c'est pas la cavalerie qui arrive, en fait.
Oui.
C'est vraiment des gens qui s'arrêtent, qui viennent te voir et te demander si tu as besoin de quelque chose. Plutôt que le logo des... Tiens, à gauche, regarde.
Oui, alors ouais, elle va nous envoyer paître.
Ouais.
Mais on va essayer.
Tu veux essayer ?
On va essayer encore. Hein. Parce que le jour où elle va vouloir... Hein.
En pleine discussion sur les missions des maraudeurs avec Kamel et après 5 minutes de trajet à peine, la dure réalité du terrain se montre déjà. Sur notre gauche, une dame âgée d'une cinquantaine d'années a trouvé refuge dans un abribus accompagné de ses nombreux sacs. Ce visage, Samira le connaît bien. Plusieurs fois, elle a tenté une approche. Enfin, certaines personnes en situation de précarité refusent les aides extérieures par méfiance, par peur ou même par déni. Bien trop peu pour empêcher les avances de nos trois bénévoles.
Qu'est-ce que vous pensez ? Elle accepte. C'est un bon début ?
Un bon début, la soirée commence par une victoire. Jusqu'à minuit, c'est tout le Grand Nord parisien qui verra la camionnette rose et blanche parcourir ses artères. Une fierté pour Samira, Kamel et Julien, et qui dresseront un sourire sur le visage des bénéficiaires.
Il faut continuer à se mobiliser. Un camion coûte 40 000 euros. Pour participer à l'opération Radio Resto, c'est très simple. Rendez-vous sur radio.restoducœur.org ou sur l'application Radio Resto. Il est 11h05. Merci d'être à l'écoute de Radio Resto saison 3.
De rien.
Tout de suite, je vous laisse en compagnie de Thierry Ardisson, Arthur et Manu Lévy.
Eh ben merci.
Radio Resto, un petit don.
Plus un petit don.
Plus un petit don.
Égale un gros camion.
Il est 11h05, si vous venez d'arriver, ben soyez les bienvenus, c'est Radio Resto depuis vendredi 20h, et ça dure jusqu'à ce soir 20h, c'est Radio Resto, où tous les animateurs radio de toutes générations confondues, vous allez le voir maintenant d'ailleurs, sont là pour les Restos du Cœur, pour offrir des camions, pour donner des camions. Le principe est très simple, vous faites un don. Ça peut être un petit don, ça peut être un grand don, vous faites le don que vous voulez, ça se passe sur l'application Radio Resto ou sur radio.restoducœur.org. Et le principe, c'est de récupérer des camions, parce qu'une fois qu'on a des denrées, eh ben, il faut savoir les transporter, les denrées. Une fois qu'il y a plein de bénévoles au Resto du Cœur, il y en a 70 000, il faut qu'ils puissent aller là où les gens en ont le plus besoin. Et on y va comment ? On peut y aller en ULM, mais c'est compliqué. C'est un peu comme le PSG, il faut vraiment un bel endroit pour y aller. Il faut un beau camion, et ces camions, eh ben, c'est grâce à vous qu'on les a. Ça fait 3 saisons. C'est la 3e saison, je pense qu'on aura une 4e. Et on a là quand même 2 personnes que j'admire.
Manu, là, dès que c'est pas écrit, tu paniques.
Non, non, parce que...
Dès que c'est pas écrit, déjà, t'as pas dit que c'était des camions frigorifiques, déjà.
Mais là, parce que c'est pas que des camions frigorifiques.
Ah bon? Alors ça a changé. Alors maintenant, on prend des camions moins chers.
Exactement.
Ah, très bien.
On prend du Vespa. Non, c'est des camions frigorifiques, et pas que frigorifiques. On nous a dit que c'est important aussi, il y a de tout.
D'accord.
Et le principe, pendant ces 48 heures, c'est d'avoir des camions. Et là, on a deux personnes que j'admire. Arthur, qui est ma petite pupute avec qui j'ai travaillé depuis 15 ans.
Exactement.
Donc je l'admire pour ça.
Mon fils caché.
Et Thierry Ardisson, que j'admire aussi, parce que c'est le seul homme en noir qui n'a jamais de pellicule.
Oui, ça c'est vrai. J'ai pas pensé, mais c'est vrai.
Parce que moi, dès que je mets un truc noir, c'est mort.
Et là, il a un concept génial, c'est qu'il se prend pas la tête pour s'habiller à la télé.
Non,
moi,
c'est génial.
Non, parce que si tu veux, tu prends le costume qui sort du pressing.
Exactement.
Et puis après, voilà, il n'y a jamais d'interrogation le matin. Enfin, au départ, j'avais fait ça parce que je me trouvais un peu enveloppé. Le noir, ça mincit. Et puis après, je me suis dit, en même temps, ça permet qu'on te reconnaît. Il n'y a pas un papier qui commence pas par l'homme en noir.
Exactement.
Voilà. Donc, mais si tu veux, c'est comme le cowboy Marlboro ou la mère Denis. C'est de la pub, quoi.
Et si t'es chez toi en jogging, noir aussi?
Toujours. Quand je rencontre des gens en vacances, ils me disent, mais putain, mais ne me dis pas que t'as un maillot de bain noir.
Et si?
Ah si, c'est toujours. Non, c'est comme ça. C'est une espèce de sacerdoce, quoi.
Alors, on est là pour savoir aujourd'hui qui a la plus grosse entre vous deux.
Ah ouais,
alors,
d'accord.
Il faut savoir, le principe est très simple. J'ai un petit bocal avec des papiers dedans.
D'accord.
Toutes les questions commencent par qui a la plus grosse.
D'accord.
Alors évidemment, tout le monde se pose la même question. Alors oui, elle est dedans, la fameuse question. Et
mais
on y répondra.
À l'usage, c'est pas qui a la plus grosse, c'est qui arrive encore à la faire marcher sans prendre des comprimés. C'est ça la vraie question.
Écoute,
on va pas répondre à ça.
C'est une émission médicale en fait.
Alors, ça va durer jusqu'à 13h. Vous allez piocher chacun votre tour une question.
D'accord.
Et vous allez tous les deux y répondre.
Il n'est pas là le maître d'hôtel, Petit Guillaume?
Alors Laurent Petit Guillaume est dans les coins, mais Laurent Petit Guillaume est en train de décéder parce qu'en fait, il est là depuis vendredi soir. Il n'arrête pas. Il ne dort pas.
Il n'a même pas eu le temps d'aller à la salle de sport.
Non. Mais regarde comme il est magnifique. Il a 77 ans, Laurent Petit Guillaume. Il est encore là, il est frais.
C'est de la folie.
Et les camions frigorifiques servent aussi à le ramener chez lui tous les soirs, il faut le savoir. Pour qu'il reste en forme. Donc il est bien. On peut faire un point sur les dons avant de commencer. Avec Robin qui est étudiant au studio École de France et qui a tous les chiffres devant lui. On en est où?
Exactement. On est à 46 885 euros. Je rappelle que le chef Baptiste Lenoir a fait un chèque de 1500 euros juste avant qu'on prenne l'antenne.
Bravo.
Alors pour, si vous voulez donner vous aussi, je vous donne rendez-vous sur le site radio.restoducœur.org ou sur l'application Radio Resto ou sur l'application Radio Player.
Ce qui serait merveilleux, c'est qu'avant la fin de cette émission, on arrive à 2 camions. Là, on a un camion.
Ça coûte combien un camion?
40 000 euros. Là, on est à 46 000, hein, c'est ça?
On est à 46 800.
46 800. Si on arrive à avoir un deuxième camion avant 13h, ce serait pas mal.
Alors, je crois qu'on diffuse le programme là maintenant sur toutes mes pages et qu'il y a un appel au don aussi qui vous sera reversé.
Sur tous les réseaux sociaux?
Ouais.
Bah bravo.
Vous en foutez, mais.
Pas du tout. Je bois tes paroles quand je te regarde. Attends.
Et vous, jeune homme, vous voulez faire de la radio plus tard?
Exactement.
Et vous n'avez pas trouvé un métier plus dans le coup que faire de la radio?
Ah non, j'en ai essayé plein, mais c'est celui-là que je veux faire.
D'accord.
C'est vrai que la radio, de plus en plus, est un métier de personnes âgées.
Ah bah, toi, t'es un peu le Dalida de la bande FM. Hein, tu vas mourir sur scène.
Non, c'est quoi? J'éteindrai la FM. Il y aura de la musique aussi. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai choisi, c'est Laurent Petit-Guillaume, justement.
Ah, j'ai vu la playlist, ça commence avec les Beatles, c'est pas mal.
Et il a choisi, il m'a dit, ça devrait leur plaire à chacun.
Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc, Mister Blue Sky, c'est bien aussi, oui.
Les Beatles, il y a Mister Blue Sky.
Non, écoute, ça va très bien.
Ça vous plaît ?
Ouais, je suis content. Ouais.
Tiens, on a pas autre chose. Donc,
Non, mais
c'est bien, c'est bien, c'est notre génération. Moi, on connaît les chansons. Au moins, on sait de quoi on parle. Alors, on y va.
Avant de s'écouter les Beatles, allez, Thierry, pioche un papier. Qui a la plus grosse ? Et tu nous lis la question. Attention.
Qui a la plus grosse règle de vie ? Très personnelle, très particulière.
Ok, une règle de vie que vous avez chez vous, peut-être chez vous, dans votre couple, ou avec les enfants, ou dans votre façon de vivre, un truc un peu spécial.
Je vais laisser, parce que s'il y a bien quelqu'un qui a des règles de vie,
je n'ai que des règles de vie. Non, mais moi, comme règle de vie, par exemple, je fais du sport 3 fois par semaine à 7h du matin, si tu veux. C'est-à-dire que là, je me lève à 6h pour être réveillé quand la fille arrive, et à 7h, j'entends, des fois, il y a la sonnette, elle sonne à 7h05, je me dis putain, elle a oublié, c'est génial, je vais me recoucher. Et en fait, non, elle finit toujours par arriver, parce qu'elle est payée pour faire ça, de toute façon.
T'as une coach qui vient tous les jours à 7h?
3 fois par semaine, ouais. Non, mais attends, tu verras quand t'auras mon âge. Si tu veux rester en forme, il faut
bouger.
Envie? Il faut envie, tout simplement, oui. Il faut bouger, hein. Non, mais moi, quand j'étais jeune, pour moi, sport, c'est un gros mot, quoi. Je veux dire, à l'école, j'étais dispensé de gym, je voulais jamais faire de sport, etc. Et puis après, qu'est-ce que tu veux? Si tu veux rester, c'est comme le montgolfière. Si tu veux rester à la même altitude, il faut lâcher du lest, quoi. T'es obligé de prendre moins de drogue, moins d'alcool, et d'essayer de faire du sport. Parce que sinon, le montgolfière, il descend, puis il tombe par terre.
C'est comme les légumes. À un moment, tu fais merde, il faut que je les bouffe, ces trucs.
C'est la date de péremption.
Moi, c'est un anniversaire. Cette année, ça fait 10 ans que je commence le sport la semaine prochaine.
Félicitations. Tu fais des trucs.
Je fais un peu de sport, mais il faut que je trouve un coach avec qui je puisse pas discuter.
Ah ouais.
Parce que je l'embrouille.
Ah ouais, oui, j'ai
vu. Le plus dur, c'est faire du sport le matin. Il faut un vrai mental. Et quand t'as un coach que tu peux embrouiller, tu peux pas faire de sport.
C'est marrant ce qu'il dit, parce que j'avais une idée, je l'ai jamais faite, celle-là non plus, mais c'est une série courte, de format court, qui s'appelait Le Coach. Donc c'était un mec, et c'était très drôle, parce qu'il pouvait arriver chez tout le monde, il arrivait, il découvrait à chaque fois un univers différent. Et il y avait un mec, justement, qui l'embrouillait, c'est pour ça que ça me fait rire, il avait l'ordinateur, t'as vu le cours de l'acier, à combien il est là? Et l'autre, il était tellement sympa, il faisait semblant de s'intéresser au cours de l'acier, et il bossait pas, c'est exactement cette histoire.
Eh ben écoute, on dit du sport au niveau de règle de vie spéciale, Arthur.
Alors, règle de vie sportive, je pense qu'il a gagné, parce que 3 fois par semaine à 7h du matin, il est la plus grosse que moi, ça c'est sûr. Et moi, j'ai des règles de vie très... Je suis un garçon très simple, comme tu le sais.
Oui, il faut juste, à partir du moment où il y a des gens de maison et puis qu'on vit dans un château, on est très bien.
Voilà, c'est tout. Bon, maintenant c'est grand, donc avec Wes, on se retrouve un peu mieux dans la maison. Mais non, je vis autour de beaucoup de superstitions, je suis très superstitieux.
Genre...
Donc ça emmerde tout le monde.
Genre le pain retourné sur la table,
le
comme
pain,
ça.
Tu donnes pas le sel en direct.
Tu croises pas les couverts.
Ouais, toutes ces conneries là auxquelles je ne crois pas du tout, mais je me dis si je dois avoir une galère, elle va tomber sur moi.
C'est le fameux... jamais sous une échelle, je me dis après tout, sois pas con.
Ouais, tu vois, puis au pire l'échelle.
Qu'est-ce que ça te coûte de faire le détour?
Exactement.
Ouais. On sait jamais. Voilà, s'il arrive un truc, putain, ce sera à cause du chat ou de l'échelle.
Voilà.
Mais il faut reconnaître que t'as tiré au sort la question la plus chiante de toute la liste qu'on a reçue.
Tu veux allez, vas-y, prends la prochaine.
Non, mais c'est vrai.
Qui
c'est
la plus grosse?
C'est la seule où je me suis dit je sais pas ce que je pourrais répondre.
Allez, attention. Prends une autre. Vas-y, qui a la plus grosse?
Qui a la plus grosse histoire de moment embarrassant? Alors là, je suis certain d'avoir la plus grosse.
Ah, tu veux commencer?
Bah, c'est comme tu veux.
Allez, vas-y.
Ah, vas-y, ouais.
Alors, le moment le plus embarrassant de ces 10 dernières années. J'ai rendez-vous dans un ministère, qui est le ministère de l'Intérieur, et je suis reçu par le ministre de l'époque et sa collaboratrice. Et au milieu du rendez-vous, le ministre doit partir, il est appelé, et je finis le rendez-vous avec sa collaboratrice, avec qui je sympathise, très charmante et tout. Et dans la conversation, une fois qu'elle me raccompagne sur le perron, je découvre qu'elle aime le chocolat, donc je me dis, pour la remercier de sa gentillesse, je vais lui faire livrer une boîte de chocolat. Jusque-là, rien d'original. J'arrive au bureau, comme j'ai la chance d'avoir des collaboratrices, je dis à ma collaboratrice, est-ce que tu veux bien faire livrer une boîte de chocolat à cette dame au ministère de l'Intérieur? Écoutez-la parce qu'elle est bonne, parce qu'en plus, j'étais allé au ministère pour demander un service. Et elle me dit pas de problème, je crois qu'elle aime le chocolat noir, parfait. Donc je dis, tu prends la meilleure boîte de chocolat chez le meilleur chocolatier. Et elle demande à mon chauffeur d'aller chercher la boîte et de la déposer au ministère. Mais entre-temps, elle se dit, quitte à envoyer le chauffeur en dehors du bureau, comme je viens de recevoir une nouvelle carte de crédit, ça serait bien que tu ailles sortir 500 balles parce que ça enclenche la carte de crédit.
Ça active la carte, ouais.
Ok. Donc je mets un mot avec mes compliments, Arthur. Une heure après, le chauffeur arrive au bureau et je vois, tu connais Julie et Géraldine, mes deux assistantes, qui débarquent dans mon bureau main dans la main. En général, quand elles arrivent dans mon bureau main dans la main,
c'est
qu'il y a une personne décédée dans ma famille, tu vois, ou qu'il y a une énorme boulette. Et en fait, mon chauffeur de l'époque avait pris les 500 balles du distributeur, les avait mis dans l'enveloppe avec marqué « avec mes compliments
ah, »
plus la boîte de chocolat.
Quelle horreur.
Donc, t'imagines, je vais demander un service. Alors, c'était pas un service, c'était pour une émission, je demande un coup de main. Et donc, j'envoie une boîte de chocolat avec 500 balles.
Le pot de vin, on est sur du pot de vin.
Et là, j'appelle donc au ministère pour parler à cette dame, qui est en réunion, donc elle n'a pas reçu la boîte. Qu'est-ce que je fais ? Je dis, vous envoyez le gars, il récupère l'enveloppe, il laisse les chocolats. Il revient avec quoi ? Les chocolats.
Ah ouais, ça je dois dire, moi je suis battu là. Tu as là, tu
vois, oh la vache.
Entre-temps, elle est devenue une de mes meilleures potes.
Parce que tu lui as raconté l'anecdote,
elle s'est marrée et tout. Mais si vous savez, le moment, les deux heures de flottement dans ma vie, ça me met dans l'embarras, mais ça peut mettre la personne en face dans l'embarras qui touche des pots de vin de 500
euros. Surtout 500
euros.
Balles. Tu
vois, et elle a été très smart, elle m'a dit donc je ne vaux que 500 euros.
Oui, c'est
euros.
Ça. Voilà. C'est que, pour ta défense, on pourrait dire que pour acheter quelqu'un au ministère de l'Intérieur, 500 balles, c'est 500 sous-payé. Balles, quand même.
Non, mais voilà, c'était bien. Un grand moment de solitude. Ma carrière est jalonnée de moments de solitude, mais j'en voulais un que je n'avais jamais raconté.
Il est magnifique. Thierry, un moment embarrassant ?
Non, moi c'est beaucoup moins drôle que ça. C'est-à-dire que mon programmateur, à la fin de Salut les Terriens, quand j'étais sur C8, ce qui était compliqué, parce qu'en fait, moi j'arrivais de Canal, j'ai passé 10 ans sur Canal, et c'est vrai que sur C8, c'était pas le même public, c'était compliqué et tout. Et mon programmateur me dit, écoute, il faut que tu interviewes des jeunes, parce que tu vois, tu peux pas toujours interviewer les mêmes, etc. Donc tu vas interviewer Squeezie.
Qui est un YouTuber.
Qui a beaucoup de succès d'ailleurs.
Ah oui, c'est un des plus gros.
Et donc, le mec vient sur mon plateau et je lui dis, mais pas du tout méchamment, pour une fois, je lui dis, mais c'est quand même extraordinaire, tu gagnes, je ne sais plus combien, 500 000 balles par an en regardant des jeux vidéo à la télé. Putain, mais c'est génial, tu vois, vraiment. Et le mec a cru, et ça a été le début d'une histoire épouvantable, le mec a cru que je me foutais de sa gueule, alors qu'il y avait un vrai respect chez moi, parce que personnellement, toute ma vie, j'ai cherché à gagner du pognon. Donc gagner 500 000 balles par an en regardant la télé, ça me semble un achievement, tu vois. Je me suis dit, le mec est très fort, quoi. Il a très mal vécu, et après, alors ça, jusque-là, c'est pas si grave, mais après, je me suis aperçu ce que c'était les youtubeurs et ce que c'était les réseaux sociaux, parce que moi, je suis pas du tout réseaux sociaux. Je me suis pris une dégelée de merde sur la gueule, c'est-à-dire que pendant 15 jours, j'étais le vieux qui comprenait rien aux jeunes, enfin, tu vois. Le boomer, j'étais le baby boomer. Alors comme j'ai fait un livre qui s'appelle Confession d'un baby boomer, c'est pas un terme que je réfute, mais je m'en suis pris plein la gueule et c'était très embarrassant parce qu'il y avait une incompréhension entre nous. C'est-à-dire, ce gars-là croyait que je me foutais de sa gueule et moi je lui disais non, t'es super.
Et tu l'as pas offert des chocolats avec 500 euros ?
Non, j'aurais dû lui envoyer 500 euros. Ouais.
Non, mais des moments embarrassants, on en a toute notre vie. Ouais. Moi, c'est ma spécialité. Hein.
Tu t'en vois encore ?
Tous les jours. Non, mais je vais pas vous en raconter d'autres, mais ou si tu veux, mais moi ça va du allez-y, madame, prenez ma place parce que. Je pense qu'elle est enceinte.
Alors qu'elle est
enceinte. D'accord. Voilà, ça, c'est un classique que j'ai fait régulièrement. Il y a pas longtemps, sur un tournage d'une émission de télé, tu sais, quand on assiste au tournage, dans les régies, il y a toujours plein de monde qui regarde. Et donc, je passe sur le tournage. Et il y a une des personnes dans le programme qui est insupportable. Et je lâche, mais quelle connasse, mais qu'est-ce qu'elle est antipathique. C'est pas possible d'être antipathique à ce point.
Ouais.
Et je suis assis à côté de son mari. Que je ne connaissais pas. Et là, je reçois un énorme coup de coude. Enfin, ma vie est faite de boulettes, donc c'est un peu ma spécialité. Dans toutes mes émissions de télé, j'en faisais tout le temps. Quand j'ai souhaité plein de fois à des artistes d'avoir un jour un César, alors qu'ils en avaient déjà deux. J'espère que vous aurez au moins un jour un César. Enfin, bref.
Tu connais
ma vie par cœur, Manu.
Arthur et Thierry Hardy sont avec nous, c'est Radio Resto, jusqu'à 13h. Ça s'appelle Qui a la plus grosse? Et on va tirer les petits papiers dans un instant. On s'écoute les Beatles?
Ah bah, avec plaisir.
C'est Laurent Petit Guillaume qui a choisi les titres.
Que Squeezie n'aime pas.
Peut-être que si.
Tu sais, il en restera deux, hein. Michel Drucker et Laurent Petit-Guillaume.
Ouais.
Parce que les Beatles, ouais, ça va être compliqué.
Ils étaient trois avec la reine d'Angleterre et.
Mais Laurent Petit-Guillaume, il restera là. C'est lui qui va éteindre la FM, Laurent Petit-Guillaume. Thierry Ardisson et Arthur sont là, c'est Radio Resto. Qui a la plus grosse? Et vous pouvez continuer sur l'application Radio Resto ou sur radio.restoducœur.org pour faire des dons. On a besoin de vous. C'est pour pouvoir financer des camions pour les Restos du Cœur. Et c'est 48 heures de radio avec tous les plus grands noms de la radio jusqu'à 20h ce soir. Peace.
Within You, Without You, des Beatles, vous êtes sur Radio Resto, bienvenue à vous.
Radio Resto, saison 3.
Le monde de la radio, ensemble pour les restos du cœur.
Et on est là, c'est qui a la plus grosse entre Arthur et Thierry Ardisson? Vous vous posez la même question tous et nous répondrons à cette question avant la fin de cette émission, c'est une promesse, qui a la plus grosse? J'ai plein de questions qui commencent toutes par qui a la plus grosse. Avant ça, on fait un point parce que si on est là, c'est pour les Restos du Cœur, oui. C'est pour pouvoir payer des camions parce que les Restos du Cœur en ont besoin. Et Robin, qui est élève au studio École de France, qui nous accueille d'ailleurs, merci parce qu'on est quand même dans un vrai studio.
C'est une vraie. C'est comme une station de radio.
C'est une vraie radio. La preuve, c'est qu'on fait 48 heures de radio non-stop.
Ah ouais.
On en est où des dons, Robin?
Alors, on est très très proche des 46 000 euros. On est à 45 990 euros collectés depuis le début de Radio Resto. Et moi, je vous invite à faire un don. On se retrouve sur le site radio.restoducœur.org pour un paiement en ligne ou également par chèque. Toutes les infos sont sur le site radio.restoducœur.org ou alors sur l'application Radio Resto qui est gratuite sur iPhone et Android ou également sur l'application Radio Player.
Et avec la loi Coluche, quand vous faites un don, c'est en fait, si vous faites un don de 100 euros par exemple, ça ne vous coûte que 25 euros.
Exactement.
Et en plus, quand vous faites un don de 100 euros, ça vous coûte 25 euros, mais en fait, c'est 200 euros qui vont au Resto du Cœur. Et là, vous dites, mais comment c'est possible? Eh bien, c'est possible grâce au Crédit Mutuel.
Ah.
Eh ben ouais. Il y a la Fondation Crédit Mutuel qui s'est engagée à doubler chaque don.
De l'opération Radio Resto?
Exactement.
Ou de tous les Restos du Cœur?
De l'opération Radio Resto pendant ces 48 heures.
Génial.
Il commence à flipper de l'autre côté. Non, c'est que pour l'opération. Et donc, c'est-à-dire que vous faites un don.
Génial. Non, mais il faut aider en ce moment parce que c'est très dur. Toutes les associations galèrent parce que ça sent un peu la crise quand même avec l'inflation et tout. Mais c'est pas pour autant qu'il faut pas penser à ceux qui sont dans le besoin.
Robin?
On vient de passer la barre des 46 000.
Mais voilà.
À l'instant.
Eh ben bien. Bravo à vous.
Ah non, mais moi, l'objectif, c'est de pourrir le Crédit Mutuel. Donc, voilà, il faut changer les éléments de langage. Venez, on fait un jeu. Venez, on pourrit le Crédit Mutuel, puisqu'il match tous les dons. À chaque fois que vous donnez, on double le Crédit Mutuel. Tu vois, ça, c'est un vrai élément.
Ils ont une bonne pub, le Crédit Mutuel.
Ouais, bah oui. C'est une bonne façon de les remercier.
La
venez, on
le dit. Avec le vieux qui ne veut pas comprendre ce que c'est.
Exactement.
Il met une banque qui appartient à ses clients, c'est mieux. Il dit, ouais, ton Crédit Mutuel. Et ils ont toute une saga publicitaire sur le Crédit Mutuel.
Avec le père et le fils, là,
très,
okay,
très
génial,
bien fait.
Génial.
Très, très bien fait. Ouais.
Toi, tu veux ouvrir un compte là-bas, non? Tu veux ouvrir un compte au Crédit
Mutuel? Moi, j'arrête pas d'ouvrir des comptes partout parce qu'à chaque fois que je me dispute avec la banque. Parce qu'il y a un nouveau truc maintenant à la banque, c'est que si tu veux, tu vas chercher de l'argent, puis une heure après, tu vas chercher de l'argent, ça sort pas. Tu les appelles, tu dis, mais oh, c'est mon pognon, c'est, je vous le prête, mais il est à moi. Ouais, d'accord, mais on a cru qu'on vous avait piqué parce qu'il y a eu deux retraits successifs. Alors après, l'autre jour, je dis ça à mon homme d'affaires, je dis, non, mais on va encore changer de banque. Et il me dit, mais Thierry, il faut que tu comprennes, le gouvernement veut plus qu'on utilise beaucoup de cash. Et tout. Mais si je l'emmerde, le gouvernement, si j'ai envie de tout payer en cash. Moi,
exactement.
On fait ce qu'on veut quand même.
C'est pour ça que le Crédit Mutuel, c'est une très bonne banque.
Parce qu'elle appartient à ses clients.
Et elle appartient à ses clients.
Et ça, c'est important.
Et Crédit Mutuel qui est là?
Non, il est pas là.
Tu sais quoi? Non.
Tu sais, je suis comme un enfant et je regarde deux tontons qui sont en train de parler ensemble, sauf que les deux tontons, c'est Arthur et Thierry Disson, je surkiffe.
Oui. Oh, ouais, mais nous, qu'est-ce que tu veux? On est les anciens combattants.
Mais vous aviez jamais.
Je vais te faire un scoop, tu veux que je fasse un scoop?
Vas-y, envoie.
Quand j'étais beaucoup plus jeune, un jour, j'ai rencontré Stéphane Courby qui voulait monter case avec Arthur et il m'a dit pourquoi tu travaillerais pas avec nous? Tu vois la connerie que j'ai fait?
Ouais, ils ont un peu réussi, ouais.
Ah, ils ont vraiment réussi. Bah, oui.
Ils ont racheté le monde, voilà, globalement. Voilà,
globalement, j'ai fait une connerie.
Et d'ailleurs, quand il dit le Crédit Mutuel, il peut la racheter aussi, hein. Attention.
Je crois pas si bien à dire. On est en train de discuter avec le Crédit Mutuel.
Qui a la plus grosse, attention, prochaine question. Qui a la plus grosse histoire d'alcool?
Oh là, moi j'ai un truc de fouf, mais vraiment, quand j'étais étudiant à Montpellier, soi-disant pour apprendre l'anglais, j'ai plus appris l'anglais en écoutant les Beatles qu'en faisant des études de lettres à Montpellier. Mais... Et alors, on buvait du Ricard au mètre, c'est-à-dire qu'on mettait des verres de Ricard, on mesurait un mètre, et on devait boire le mètre. Et c'était du Ricard, évidemment, sans eau, du Ricard pur.
Et évidemment.
Donc, j'étais étudiant, j'avais, je sais pas, une vingtaine d'années, et donc, quand on commençait à s'enfiler des Ricards au mètre, et je suis monté chez moi, j'habitais au troisième étage au-dessus du bistrot, et j'ai jeté une bouteille de butagaz sur un mec.
Non.
Non, mais tu le crois, ça?
Merde. Il est mort?
Non, il est pas mort, c'est tombé à côté.
Ah.
Elle aurait pu exploser, la bouteille, si tu veux. Donc, t'imagines l'état de délirium très mince alcoolique dans lequel j'étais, quoi. C'était vraiment, et ça, je m'en souviens tout le temps, parce que ça aurait pu tuer le gars, tu vois.
Ouais, non, une bouteille de gaz. Bouteille non, de bah gaz, non,
ça une grosse bouteille de gaz.
Alors, moi, je bois pas d'alcool, donc je peux pas vous raconter d'anecdotes. J'ai bu une fois, il y a quelques mois, le verre de trop. Et j'ai dit à ma femme, je lui ai demandé si elle était célibataire.
Ah ouais? À ta femme?
Ouais.
Elle a répondu oui, du coup.
Elle m'a défoncé la gueule.
Ah ouais.
Et d'un coup, on ne me présente plus de verre.
Pourquoi tu bois pas?
Je bois pas, écoute, je sais
tu
pas.
Tu devrais, c'est super.
Je sais, mais parce que j'ai le sang qui circule très très vite dans le corps. Alors si, je bois mon verre de vin à table et tout. Oui, oui.
Tu bois du
mais
pétrole,
boire à tomber dans les pommes.
Ah
non.
Ouais.
Moi, je bois pas de Moscow Mule, des trucs comme ça. Non, c'est non, trop non. Violent pour moi.
Ouais, ouais, je comprends ça. Il faut boire du vin.
Voilà, très bon vin. En plus, j'ai appris que c'était bon pour la santé. Là, tu as vraiment des gars. Amène un gigot, c'est dimanche, mon pote. Hein.
On a parlé de légumes, on a parlé de sport trois fois par semaine. Ouais.
Il y a 25 ans, dans le même studio, on t'aurait parlé de cul, mais là, maintenant, on va te parler de nos enfants, des études.
Mais tiens, parce que quand on parle de ça et qu'on fait de la radio, t'as jamais fait, sauf si je dis de la merde, mais tu me le dis, mais t'as jamais fait d'émission de radio à toi, en direct, quotidienne?
J'en avais jamais fait. Et puis, je me suis dit quand même, si tout le monde dit, pourquoi tu fais pas de la radio, tout ça, est-ce que c'est bien payé la radio? Non, pas obligatoirement, mais vas-y, c'est marrant, t'as une bonne voix, toi, etc.
Ouais.
Et j'ai inventé une émission de radio que j'ai faite, ça s'appelle Hardy Knight. Donc si tu veux, par exemple, imagine qu'on joue à ça ici. Lui met un disque, il programme un disque. Bon, moi je programme un disque, lui programme un disque. On programme à tour de rôle,
okay.
et les auditeurs votent pour savoir qui est le meilleur programmateur.
Ah ouais, la battle.
La battle.
C'est pas mal.
C'est pas mal. Et alors je l'ai fait contre, je l'ai fait sur RFM, cette émission, contre Yves Bigot. Alors on se battait avec des beaux morceaux de rock'n'roll et tout. Et à un moment, ce connard il met ABBA. Évidemment, tous les gens ils ont voté pour ABBA, donc j'ai dit que c'était pas honnête de mettre ABBA quand même. Et puis après, je l'ai fait contre. Je crois que c'est Philippe Manœuvre, ouais. Et Philippe Manœuvre qui a été excellent.
Il a pris des bons, ouais.
Et puis après, Bolloré est arrivé, il a racheté RFM et je me suis fait virer aussi de RFM.
C'est l'histoire, on est d'accord, c'est l'histoire de ta vie de te faire virer.
Bah, je me suis fait beaucoup virer, mais tu sais, se faire
c'est
virer.
C'est bon signe.
En fait. Se faire virer. Je me fais virer par El Kabash. Voilà, j'aurais pu aller faire, je faisais double jeu à l'époque, j'aurais pu faire la même émission ailleurs. Quand tu te fais virer, ça t'oblige à te poser des questions et pas avoir une carrière trop linéaire, tu vois. C'est-à-dire là, je me suis dit, bon, finalement, et j'ai inventé Paris Dernière, c'est-à-dire l'émission où je me baladais dans la rue, qui coûtait 10 000 balles par semaine, qui était complètement nowhere, tu vois. C'est-à-dire que là, par exemple, je me fais virer par Bolloré, bon, il arrête Salut les Terriens, j'aurais pu aller faire un talk show sur M6, non, j'ai fait Hôtel du Temps. Donc ce que je veux dire, c'est que...
Tu te réinventes à chaque fois, en fait.
Oui, c'est vachement bien, parce que si j'étais, et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, si je faisais partie d'une grosse structure, bah, mes associés me diraient, écoute Thierry, t'es gentil, tu vas faire des talk shows, parce que voilà, tu vois, c'est normal, on est associés. Nous... Là, je fais ce que je veux. Alors évidemment, j'ai beaucoup moins de blé qu'Arthur, j'ai raté ma vie au niveau financier.
C'est beau de dire ça.
Mais si tu veux, non, mais c'est la vérité, de toute façon. Mais c'est vrai que j'ai toujours fait, chaque fois que je me suis fait virer, je suis revenu ailleurs. Parce que je crois que le secret d'un comeback réussi, c'est de pas essayer de revenir là où tu étais. Parce que ça peut être que plus bas. Tu vois, Marco, quand il s'est fait virer de, où il est parti des France 3, il est allé sur M6, ça a pas marché. C'est-à-dire, quand tu fais la même émission sur une autre chaîne, t'es sûr de descendre. Donc il faut retrouver un truc qui ressemble pas à ce que tu faisais avant. Voilà.
Et puis,
c'est un conseil que je donne à tous les étudiants. Mais on a...
Vous n'êtes pas encore viré, vous n'êtes pas encore employé.
Ouais, c'est ça. Vous serez viré.
Robin, t'as quel âge ?
Moi, j'ai 26 ans.
Thierry Ardisson, Arthur, ça te parle
Bah, complètement, c'est toute mon enfance et ma vie, parce que vous êtes encore à la télé, donc c'est génial.
Le rapport, il est un peu gênant, mais. mais c'est vrai, mais. Moi, j'ai démarré, tu n'étais pas né.
Je suis né en 96.
Tiens, t'as quasiment pas connu la Coupe du Monde.
J'ai démarré il y a 30 ans.
Mais c'était, moi, je me souviens quand il a démarré à la radio, tout le monde le sait. Après, t'avais fait une émission qui s'appelait L'émission Impossible, non ?
Ouais.
Et alors, il y avait un ring.
Ouais.
Il y avait un ring.
Et t'étais venu ?
J'étais venu.
Avec Eder Nallier.
Je me suis battu contre Eder Nallier. Et on se battait à coups de formule et tout. C'était vachement. C'est très créatif, cette émission.
Eh, moi, j'y manque plus de Drucker autour de la table et vous pouvez faire une bonne sieste dimanche. Alors,
tu sais quoi ?
Nos anecdotes.
Ce studio s'appelle le studio Michel Drucker.
Ah bah, très bien.
Donc, on s'est dit que c'était bien pour ça.
Ah bah oui, c'est important.
Mais moi, j'ai fait une de mes premières télés avec Thierry. La première fois que je me suis fait défoncer à la télévision, c'était chez Thierry Ardisson.
Je connais cette histoire. Tu t'en rappelles ou pas ?
Non.
Tu recevais Patrick Timsit.
Ouais.
Et j'étais l'invité. Et vous m'avez défoncé la gueule.
Ah oui, c'était double jeu.
Et c'était sur un. C'était
l'onanisme.
Exactement.
Donc je lui dis, est-ce que tu sais ce que c'est ?
Et je ne savais pas.
Il y avait ta fiancée de l'époque qui dit, mais oui, on a le livre qu'on a acheté au puce, là, le Kamasutra, mais si, l'essai de lui souffler, tu vois. Onanisme. Ah oui, putain, c'est vrai.
Et moi, je ne savais pas ce qu'était l'onanisme.
Et depuis...
Je le pratiquais pourtant. mais je ne savais pas qu'il y avait un mot autre que la branlette.
Ah oui.
Et donc, je les voyais, ils me vannaient et tout. Et moi, dans ma tête, je n'osais pas dire. J'avais de passer pour un coup, je n'osais pas dire que je ne savais pas de quoi il parlait. Et voilà, et Timsit m'avait bien charrié. Bah ouais. Il y avait Baffy, il y avait tout le monde. C'était mon premier passage chez Thierry.
Mais Timsit, c'était la première fois où j'ai rigolé à la télé. Parce que moi, la télé, je prenais ça quand même assez sérieusement, malgré tout. Et pas tellement un endroit où je pouvais me marrer. Et un jour, il y a Timsit qui vient dans cette fameuse émission Double Jeu, où Arthur a donc été invité. Et il y avait, de chaque côté de la scène, il y avait deux noirs sculpturaux. Avec des petits slips qui tenaient une lance. Comme si, aujourd'hui, on ne pourrait plus le faire.
On garde la vue directe.
On est dans le politiquement correct. Ouais, vraiment, là, on est bien dedans.
Quand tu vois ça, tu dis comment c'est possible que tu as deux noirs qui sont comme ça. Et alors, Patrick, il leur touche les couilles comme ça dans le petit slip. Il y avait quand même, il y a du monde. Là, et moi, d'un coup, je me suis dit, mais putain, Ardisson, mais à la télé, tu peux te marrer. Tu n'es pas obligé de prendre ça. C'est une plaisanterie. Tu n'es pas obligé de prendre ça sérieusement.
Lui, mais c'est vrai que ce qu'a fait Thierry à la télé, moi un petit peu, mais surtout à la radio avec toi, Manu, aujourd'hui, on sera en prison.
Ah bah ouais.
On serait ou en prison, on serait, je sais pas, on serait crucifié, je ne sais pas.
C'est
pas,
c'est crucifié pas, peut-être pas.
Non, non, mais c'est pas gay, ça, je trouve. C'est, moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté, en dehors du fait que l'autre m'a viré. Mais j'ai pas essayé de refaire du talk show, parce qu'aujourd'hui, dès que tu dis le moindre truc, moi, je me...
Non, mais je te dis franchement, si la semaine prochaine, je fais une émission avec deux blacks en string qui tiennent un flambeau,
ouais.
Je pense que je finis dans la scène.
Ah oui, Sandrine Rousseau, ah, tu ouais, ouais. T'attends à la sortie du studio.
Ah ouais, ouais.
Eh ben pardon, on les a, et hein. Ils sont là.
Ben ouais.
Ah mais moi je bois les paroles, moi j'adore vous écouter raconter les histoires.
Si on commence à raconter nos histoires, t'as pas fini.
Mais c'est très bien, on est là jusqu'à 13h. Qui a la plus grosse avec Arthur et Thierry Ardisson? Laurent Petit-Guillaume s'est occupé de choisir des titres qui doivent vous parler.
Ah,
et
on là... va mettre de la musique, les gens s'en foutent de la musique, ils sont plus intéressés par ce qu'on raconte.
Alors attends, non mais là c'est pas n'importe quoi, là il y a la Rousseau.
Non.
Alors pourquoi il a choisi la Rousseau? Apparemment c'est
la cousine d'Arthur.
Alors... Non, c'est pas ma cousine. C'est sa grand-mère et la cousine de ma grand-mère.
Oh putain, ouais, donc ça va chercher loin.
Sa cousine.
Elle n'est... Non, oui, mais je l'ai appris par elle. Et il faut lui reconnaître qu'elle a eu beaucoup de succès et que je ne suis en rien responsable de son succès.
Ni
parce
son
que...
échec.
Ni de son échec d'ailleurs, puisque je l'ai invitée dans mes émissions qui était déjà numéro 1 du top. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert qu'elle était la cousine de ma grand-mère. Putain. Bah tu sais, chez les Feuges, on est tous cousins de quelqu'un. Ah ouais. Hein. Même en cherchant, on peut trouver Laurent Petit-Guillaume dans l'organigramme.
Eh ben c'est la Rousseau, tu m'oublieras. Eh ben ça, mais tu sais quoi, ça va lui faire plaisir. On l'écoute maintenant, c'est la cousine, mais ancienne cousine de la grand-mère.
Non, c'est pas ma cousine.
Tu m'oublieras, c'était
prévu. C'est la grand-mère de la Rousseau.
Grand-mère
qui est
dont
la cousine.
La cousine a été la grand-mère de la Rousseau. Donc pour te dire qu'on a, on n'est pas de la même famille, ce qui n'enlève strictement rien à son talent.
Voilà. Alors tu sais quoi, c'est la cousine de Thierry Ardisson.
Et il n'y a pas une soirée qui ne soit réussie sans mettre la Rousseau.
C'est vrai.
C'est Radio Resto et on est là avec vous jusqu'à 13h avec Thierry Ardisson et Arthur. Vous pouvez continuer à faire des dons pour les Restos du Cœur. Ça se passe sur l'application Radio Resto ou sur le site radio.restoducœur.org.
Et surtout, très important, oui. À chaque fois, le Crédit Mutuel double vos dons.
C'est important.
En me regardant souffrir, ces instants difficiles, je ne sais plus quoi dire.
Tu m'oublieras, c'était Larousseau sur Radio Resto.
Radio Resto, les plus grands
animateurs. Ça et Camaro, c'est vraiment...
Camaro.
Girl Like You, là.
Petit Guillaume, il a mis Camaro ou pas?
Le petit Guillaume, Camaro.
Je sais pas ce qu'il a mis après. C'est Laurent Petit-Guillaume qui a fait la programmation musicale. On va les courir ensemble.
Ah non, c'est Mister Blue Sky, c'est bien ça.
Electric Light Orchestra, ouais, c'est pas mal.
Ouais,
ça vous va.
Ou Lily Allen, si tu veux, on peut l'avoir par Lily Allen.
Bienvenue dans notre petit bistrot, dans notre petit bar. On est bien avec Thierry Ardisson et Arthur. C'est qui a la plus grosse jusqu'à 13h? C'est pour Radio en Resto.
Ça, c'est drôle.
C'est un bon titre, hein. Ouais, ouais, c'est un bon titre, franchement. C'est un bon pitch, tout est dit.
La question que tout le monde se pose, avant la fin de cette émission, vous aurez la réponse.
Ça, c'est créatif.
Qui a la plus grosse entre Arthur et Thierry Ardisson?
Ça, c'est créatif.
Tu peux encore faire ça à la radio en télé, t'es avec un titre qui a la plus grosse.
Ah, bah non, t'es mort, là.
C'est la magie de la radio, hein.
Ouais, c'est vrai que la radio reste quand même un espace où on peut dire à peu près plus de choses, quoi, disons. Ouais.
Ah, je pense que oui, ce qu'on
le
dit
matin,
à la radio.
Sur les matinales, vous faites pas chier quand même. Hein.
Ouais, le soir aussi. On peut quand même balancer pas mal de trucs, se marrer sur beaucoup de choses qu'on peut pas dire à la télé, ouais. Puis après, il y a le physique qui rentre en jeu, quoi. Voilà, on va enchaîner.
Qu'il est con.
Il est drôle.
Qui a la plus grosse entre Arthur et Thierry Ardisson? Alors là, bon, bah, il doit en avoir 50 000. Histoire d'interview fabuleuse, incroyable. En bien, en mal. Enfin, l'interview la plus dingue que vous ayez vécue. Une histoire incroyable. Thierry, Arthur.
Ah, Thierry, c'est sûr qu'il a...
Ben, moi, si tu veux, c'est vrai qu'un soir, dans tout le monde en parle, j'avais Brad Pitt, Matt Damon, Angelina Jolie et Colin Farrell. Donc, voilà, tu m'as dit fabuleuse. Là, je te dis fabuleux, toi. C'est-à-dire que le truc... c'était la promotion, en fait, c'était pas du tout, on l'avait pas fait exprès, parce que c'était deux films différents. Les deux, Brad Pitt et Matt Damon, ils venaient pour Ocean, je sais plus combien, et les autres pour un autre film. Donc c'était en même temps pas la même équipe, mais il se trouvait que pour la promotion des films, ils étaient... J'ai dit, merde, on est con, il y a quand même passé deux la semaine suivante, franchement, on se tire une balle dans le pied. Mais évidemment, la prod a pas voulu, parce que le film sortait le mercredi, donc on a eu les quatre dans la même émission, voilà. Et je crois que ça n'a jamais été dépassé, ça.
Et c'était un pour toi d'avoir les quatre, c'était surréaliste.
Oui, ben j'ai dit à Matt Damon et à Brad Pitt, comme ça, on avait reconstruit le décor, parce qu'il voulait pas bouger du Bristol. Et on avait reconstruit le décor de Tout le monde en parle au Bristol.
Ah, génial.
Et donc on reconstruit, ça ressemblait à peu près, et puis on s'assoit, tout comme ça. Et moi je leur dis, vous êtes à Paris pour combien de jours? On est là pour 3 jours, vous voulez des gonzesses?
Non.
Mec, vous voulez de la drogue? Non, parce que je peux arranger ça. Et là, les mecs, ils étaient comme deux ronds de flanc, tu vois, parce qu'ils nous prennent, évidemment, les Français, déjà, ils pensent que c'est possible, tu vois, qu'on peut le trouver comme ça, des gonzesses de la dope. Et donc, ils me regardaient comme ça, non, vraiment. Donc, j'étais content, voilà, j'ai fait le mariole, j'étais content.
Bravo. Arthur, une interview improbable, incroyable.
Alors, moi, j'ai su un fan, de manière générale, et donc, quand j'ai reçu toutes les célébrités qui ont bercé mon enfance, j'étais en état de joie quand j'ai reçu Catherine Deneuve, quand j'ai reçu Alain Delon, quand j'ai reçu Gérard Depardieu. Donc les interviews n'étaient pas particulièrement géniales, mais j'étais moi en extase. D'ailleurs, je commençais, si tu regardes dans Les Enfants de la télé, en disant, j'arrive pas à croire que je suis en face de vous. Moi, je suis pas un intervieweur comme Thierry. Moi, je suis plutôt un mec qui fait dire des conneries aux gens, mais lui, il est carré, il a ses fiches et tout. Mais d'avoir en face de moi... Claudia Cardinal, enfin j'ai Mireille d'Arc.
C'est très récompensant.
Regarde, je l'ai regardé dans un poste en noir et blanc chez mes parents et ils sont mes invités, quoi.
Voilà. Mais c'est exactement ce que je vis là. Hein. Je sais pas si vous avez déjà été invité tous les deux, mais non, mais dans une émission.
Arthur,
je le connais depuis 15 ans. Bah, Thierry, on a fait l'émission ensemble. On a fait l'émission
depuis l'âge
15
de 15 ans.
Ça fait 30 ans. Mais de vous voir là tous les deux comme ça, mais c'est là tranquille, moi.
Il y a des moments, si moi, par exemple, je faisais Lunettes Noires pour Nuit Blanche, et puis c'était branché, disons. Et puis un jour, mon programmateur me dit, mais tu sais, quand on a fait Double Jeu, il me dit, tu sais, si tu veux réussir vraiment, enfin, si tu veux, il faut faire grand public, il faut que tu invites Sacha Distel, il faut que tu invites Enrico Macias, tu peux pas te contenter d'inviter que la branchitude. Et j'ai invité Enrico, et il a joué. Adieu mon pays, il a chanté Adieu mon pays, et sur les premières notes de guitare, je me suis mis à chialer. Et donc, c'est très bizarre, parce que Tim Seat m'avait fait rire à la télévision, la première fois où je riais de bon cœur à la télévision, et Enrico a été le premier à me faire pleurer quand j'ai entendu cette chanson.
Qui tu n'as pas reçu à la télé?
John Lennon.
Ouais.
Alors, on a une surprise pour toi. On l'a ramassé.
Non, c'est pour ça que je fais les morts maintenant, parce que j'espère.
On a reçu tout le monde, c'est vrai. Moi, la seule personne que j'ai pas reçue, t'imagines, en 30 ans, c'est Vanessa Paradis.
Ah ouais?
Sinon, j'ai reçu tout le monde.
Madonna?
Madonna, oui, à la radio.
Ah, bravo. J'étais pas là.
Bah si, t'étais là. Britney Spears.
Britney Spears, ouais.
Elle est restée une minute.
Britney Spears, c'est un truc incroyable. Je sais pas si t'as déjà vécu ça. Britney Spears ne répondait qu'après avoir jeté un regard sur son attaché de presse.
Ah ouais.
Et l'attaché de presse, c'est un oui ou un non. Mais je me rappelle de ça. C'était incroyable.
Et d'ailleurs, elle est partie fâchée au bout de 10 minutes parce que je lui avais dit. Elle était venue en col roulé, la meuf. Elle était à poil sur tous ses clips. Elle était venue en col roulé et tout. J'ai dit, mais quelle déception. Ouais. J'étais vert. Et je lui ai dit ça en rigolant et elle a très mal pris. Elle était déjà très avant-gardiste. Hein.
Britney Spears ?
Ouais.
Oui. Bah maintenant, elle est encore beaucoup à poil sur les réseaux. Donc
Oui, mais là, plus personne n'a envie de regarder, quoi. C'était plus la même.
Moi, j'ai interviewé un peu comme un dentiste au père, si tu veux. C'est-à-dire que des fois, on me dit, mais quelle est l'interview qui t'a le plus marqué? Moi, j'avais mes fiches, ils venaient chez moi, je les asseyais sur le fauteuil, je les opérais, ils repartaient. Tu vois, il y avait quelque chose d'assez mécanique.
C'était clinique.
Oui, puis je faisais très attention de ne pas être fan, et même quand j'avais, évidemment, quand j'avais Serge Gainsbourg, j'étais hyper fan de Gainsbourg, évidemment. Mais je faisais gaffe de pas me laisser emporter par ma fanitude, tu vois, de rester toujours un peu.
Alors que moi, c'est l'inverse. Je faisais que du fan premier degré parce que je l'assumais d'être heureux, quoi. Mais bon, j'ai intervieweur comme Thierry, c'est un boulot, c'est des heures de boulot. Moi, j'ai jamais pu. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé à faire de l'interview, j'avais pris Isabelle pour m'aider, qui était celle qui écrivait tes interviews.
Isabelle Siri, qui a été formidable et que je remercie parce qu'elle m'a. Ah ben, elle faisait pas les interviews, mais elle m'a porté de quoi faire les interviews.
Et ta pire interview?
Ma pire interview, c'est des interviews qui n'ont jamais commencé. Par exemple, un jour, dans Lunettes Noires pour Nuit Blanche, je suis en face de Jimmy Somerville. On est accoudé au comptoir pour faire commencer l'interview. Et il voit ma fiche et il y avait écrit, c'était écrit en anglais, mais donc c'est encore plus facile pour lui. Qu'est-ce que ça te fait quand on t'appelle tranche de patate? C'est vrai que Jimmy Somerville a vraiment une tranche de patate. Il m'a
dit, hey, c'est
pareil. You're gonna ask me this question? J'ai dit, oui, je vais te poser cette question. Mais il est parti. Et Sinéad O'Connor aussi. Parce que Sinéad O'Connor, elle avait brûlé une photo du pape. Et moi, je suis assez papiste, tu vois. Enfin, surtout, c'était Jean-Paul II, il y avait de quoi être papiste. Et donc, je lui dis, mais enfin, pourquoi t'as brûlé une photo du pape? Enfin, il y a plein de gens qui auraient brûlé une photo d'Hitler, mais pas du pape, tu vois. Et c'est des gens qui ont fait des choses pour réussir, mais une fois qu'ils ont réussi, ils ne veulent plus qu'on leur en parle. Ça arrive très souvent. Okay. Donc, elle s'est levée, elle est partie, et je me souviendrai toujours, c'était rue de Liège, parce que le palace était fermé, on tournait au Scheherazade, et je me souviendrai toujours sur le fil, parce que c'était le fil du micro, c'était avant la HF, le fil du micro derrière elle dans la rue, comme ça, elle est partie. Donc ça, c'est vraiment les interviews qui n'ont jamais eu lieu, quoi.
Et t'as déjà posé une question, et tu vois qu'en face de toi, t'as quelqu'un qui est extrêmement mal à l'aise, du coup, de cette question?
Tout le temps.
D'accord.
Non, tout le temps, moi, c'était...
Et toi, tu te dis quoi?
Je vais dire la vérité. C'est que moi, quand j'ai commencé la télé, moi, je voulais pas faire la télé, c'était pas ma vocation. Lui, il a commencé, la radio, tout ça, il avait envie de faire ça. Moi, je voulais être écrivain, je fais 5-6 bouquins, je suis pas devenu écrivain. J'ai fait de la pub pendant longtemps. Et à l'âge de 35 ans seulement, j'ai commencé la télé, et j'étais hyper traqueur. C'est-à-dire que j'avais les mains moites, j'avais des sueurs froides dans le cou, j'étais pas du tout décontracté, moi. Et donc, j'étais mal à l'aise. Et comme j'étais mal à l'aise, ça me gênait pas que les gens en face de moi soient mal à l'aise, en fait. Si j'avais été bien, j'avais été cool, j'aurais pas été méchant comme ça. Mais si tu veux, là, j'étais tellement malheureux que je me disais, autant que le mec en face de moi, il soit malheureux aussi, tu
vois. Autant souffrir à deux.
Donc, c'est vrai que ça m'a amené à faire des choses genre, je sais pas, de dire à Nicolas Sirkis, le chanteur de Chine, première interview, ça te fait pas chier de chanter faux?
tu l'as dit donc.
Et voilà. Et puis pareil, il y en a eu plein, évidemment, on va pas toutes les faire, mais c'est vrai que c'était après quand j'ai commencé à être plus à l'aise, parce qu'au bout d'un moment, j'ai quand même fini par être plus à l'aise et moins traqueur, je suis devenu moins bon. Parce que j'avais pas envie de fâcher les gens.
Ah merde. C'est pas facile de mettre les gens mal à l'aise sur un plateau, hein. Ouais. Parce qu'ils arrivent avec pas mal de confiance. Moi, je réussissais parce que j'avais des casseroles. Donc les mecs, ils avaient des super carrières, ils étaient au top, et moi, je leur sortais des trucs qu'ils avaient foutus sous le tapis pendant des années. C'est comme ça que je les ai rendus mal à l'aise. Pas dans les interviews. Une fois, j'ai rendu une invitée mal à l'aise, c'était Claudia Cardinal, parce que pour la première fois, j'avais préparé l'interview, et je me suis dit, parce que j'étais fan d'elle, je me suis dit, je vais lui réciter un poème en italien. Et à l'époque, j'étais pote avec Tim Sit, et c'est Tim Sit qui me file un poème en italien que j'apprends par cœur. Mais ce qu'il m'avait pas dit, ce bâtard, que c'était un truc de cul horrible. Et je crois que j'ai démarré en disant « Dis-moi, chère madame, combien tu as de poils à la chatte ?» Et moi, je parlais pas un mot d'italien. J'avais mis tout le poème sur le prompteur, elle est devenue décomposée. Et elle n'est pas partie, mais la séquence n'est pas passée dans l'émission.
Ah ouais, voilà.
Et ben on l'a retrouvée. Non, on l'a pas retrouvée. Arthur et Thierry Radisson sont avec nous. C'est qui a la plus grosse jusqu'à 13h? C'est Radio Resto. Robin, on en est où des dons?
Alors, on est actuellement à 46 740 euros collectés depuis le début de Radio Resto. Je vous rappelle que ces dons vont servir à financer des camions frigorifiques et pas que pour les Restos du Cœur. Alors, si vous voulez donner vous aussi, c'est très simple. Rendez-vous sur le site radio.restoducœur.org en paiement en ligne ou alors par chèque. Toutes les infos sont sur le site internet, sur l'application Radio Resto au pluriel ou également sur l'application Radio Player.
Et il faut dire que quand on donne 100 euros ou 10 euros ou 1 euro, il y a 25% que vous donnez vraiment et il y a le double qui est donné par
le Crédit Mutuel. C'est pas mal.
C'est ça.
Si après ça, on ne peut pas avoir un bon crédit au Crédit Mutuel avec toute cette pub qu'on leur fait, bon, mais c'est important pour les Restos du Cœur.
Ben oui, vous êtes là. Et ben c'est quoi, merci?
Ah, c'est fini?
Non. Ah bon? Toi, tu t'en vas.
Non, alors, question suivante.
On a encore plus d'une heure à passer ensemble. Vous êtes prêts?
Ouais.
On va s'écouter Electric Light Orchestra. Qui a la plus grosse histoire d'engueulade en couple?
Oh putain.
Mais tu veux dire cette semaine ou
Là, il y a deux heures. Ah, dans les deux dernières heures.
Dans les deux dernières heures.
Il y a des fois.
Je me suis fait déchirer. Parce que moi, je m'engueule pas dans mon couple. Je me fais massacrer.
Oui, tu perds tout le temps, en fait.
Je suis une victime.
Ok.
Où est Clémentine Autain? Non, la dernière fois, je suis avec un pote un samedi après-midi et il me dit c'est l'anniversaire de ma femme, je veux la gâter. Donc on rentre chez un grand couturier et il choisit deux sacs à main, des chaussures, des dessous un peu sexy et tout. Et au moment de payer, il s'aperçoit qu'il n'a pas sa carte de crédit sur lui. Donc il me dit tu peux m'avancer. Donc moi, je prends ma carte de crédit, il n'y a pas de problème, je paye. Tu vois. Un mois passe. Ok,
je le vois
maintenant
venir.
J'ai complètement oublié que j'ai donné un coup de main à mon pote, bref. Ma femme va dans cette boutique et le vendeur lui dit « Alors, vous avez aimé les chaussures et le string ?» Et elle rentre donc, elle est persuadée que j'ai acheté donc pour une autre. Tu vois,
bien
je veux
sûr.
Dire. Et moi, j'oublie, donc je nie. Je dis « Mais non, j'ai jamais acheté ça, j'ai complètement oublié. » Et après, dans l'après-midi, ça me revient. Donc, je demande à mon pote d'appeler pour confirmer. Mais ça faisait vraiment le mec qui a mitonné, qui a appelé son copain complice, tu vois.
Ah
donc,
oui.
Donc, j'ai dû faire appeler la femme. Parce que moi, je suis qu'une Tahitienne. Ces gens-là ont des armes, des couteaux tranchants, des sarbacanes, tu vois. C'est vraiment des
de
gens.
De destruction massive.
Ils ne sont pas comme nous. Hein. Et donc, c'est grâce à la femme de mon pote que j'en suis sorti. Parce que sinon, qu'il est, il me manquera un œil, je pense.
Ouais, ouais.
Bon, d'ailleurs, une partie de mon corps est fausse. Et parce qu'elle m'a dépecé petit à petit en 10 ans de vie commune. Hein. De mariage.
C'est une belle histoire.
C'est une très très belle histoire.
Ça fera un scénario de film, vu le niveau du cinéma français en ce moment.
Ça fera un film
d'au moins une heure et demie, oui.
Engueulade en couple, Thierry. Belle.
Bizarrement, j'ai trouvé une femme, c'est la troisième. Hein. C'est comme Mitterrand. Mitterrand, il s'est évadé trois fois, c'est la troisième fois qui a été la bonne. Moi, c'est la troisième qui a l'air d'être la bonne. Et on s'engueule pas parce que dès qu'il y a. J'aurais dû comprendre ça plus tôt. Dès qu'il y a quelque chose qui pourrait nous faire disputer, elle désamorce.
Ah, c'est bien.
Tu vois.
C'est bien.
Dès que je commence à faire la gueule, moi je suis quand même grand spécialiste de ça, dis tu fais la gueule là. Non, je fais pas la gueule. Bah, tu fais la gueule. Pourquoi tu fais la gueule? Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et donc, tu crèves l'abcès immédiatement. Tu vois. Et ça, c'est un truc que je donne aux gens. C'est vrai que moi, je vis beaucoup mieux depuis que je suis avec Audrey. Parce qu'on ne s'engueule pas. Tu sais, genre, on se crie dessus. Moi, je me suis engueulé avec des gonzesses toute ma vie. Comme tout le monde, d'ailleurs. Mais là, c'est beaucoup moins. Donc, je n'ai pas vraiment d'histoire d'engueulade.
Putain, il fait du sport, il mange des légumes, il ne s'engueule pas avec sa femme.
Ouais, enfin, ça va, j'ai donné faux quand même.
Et toi, Manu, la dernière fois que tu t'es engueulé avec une femme?
Alors, avec ma femme, la dernière fois que je me suis engueulé, c'est une. Je m'engueule.
C'est vrai, on lui pose pas les questions.
Moi, je fuis, moi, en général.
C'est quand ça commence. Un pleutre.
Ouais, je suis vraiment j'ai pas de couilles. Non, je fuis. C'est vraiment le truc de bon, bah, c'est foutu. Et puis, tiens, on perd tout le temps, fondamentalement. Mmh. En fait, l'engueulade avec une femme s'arrête quand elle décide que ça s'arrête.
Il y a une chanson d'Albin de la Simone où il dit, qui est une chanson formidable, où il dit, ma femme, qu'il adore sa femme parce qu'elle n'a pas toujours raison. Et c'est vrai, une femme qui n'a pas toujours raison, c'est formidable.
C'est très compliqué, ouais.
Ouais, il n'y en a pas, en vérité.
Mais même quand elle n'a pas raison, moi, à un moment, je dis, bah, elle a raison.
Oui, il faut qu'elle ait raison. Voilà, c'est un peu
voilà. Electric Light Orchestra, c'est Laurent Petit-Guillaume qui a choisi la musique de cette émission. Mister Blue Sky.
Figure-toi que le chanteur d'Electric Light Orchestra,
ouais.
Son grand-père était cousin avec mon grand-père.
Comme Larousseau.
C'est fou, ça.
Mais c'est assez incroyable.
C'est fou, je sais pas ce qui s'est passé dans ma famille.
Mais tout le monde s'est mis à la chanson à un moment dans la cousinade.
Le mec est génial, donc c'est Jeff Lynne.
Ouais.
Qui a été un grand ami des Beatles et qui a produit d'ailleurs certains disques d'Harrison et tout ça. Et c'est très marrant, Electric Light Orchestra, j'ai découvert très tard, moi. Et c'est des gens qui avait un, le mec, c'est un mélodiste, Jeff Lynne, absolument génial, quoi. Il y a des mélodies des Electric Light Orchestra.
Ah, voilà, 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 voilà. C'est ça?
Je sais pas. Non, c'est pas ça.
Non, c'est pas ça.
Ah, vous mettez pas celle-là? Ah ouais, mais bon.
Mister Blue Sky.
C'est la plus connue.
Oui, 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 bah évidemment.
Le petit Guillaume, il nous a mis la plus connue.
Qui est pas si petit que ça. Hein.
Non, finalement, je l'ai
enfin, c'est par rapport à sa taille physique.
Alors, c'est pas lui qui a la plus grosse, comme ça, vous le savez.
Ça, bah, ça je me confirme, pour l'avoir vu à plusieurs reprises.
C'est les vieux matchs de foot, on était ados à l'époque.
Non, sa spécialité pour les gens, quand on faisait de la radio ensemble, c'est qu'il la mettait dans une assiette de purée à la cantine.
Oh.
Et les gens disaient, ah tiens, des saucisses cocktail.
Quelle horreur.
Everybody's wise and chill.
Mr Blue Sky, Electric Like Orchestra sur Radio Resto. Il est midi.
Radio Resto. 48 heures pour écouter, 48 heures pour agir. Relevons le défi.
Relevons le défi.
Et tout de suite, un point sur l'actualité des restos avec Fabien Lost. Bonjour Fabien.
Bonjour à tous. Coup